Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Lyrics. Lyrics est une émission de lecture d'œuvres littéraires, que ce soit des romans, des contes, des nouvelles, des poèmes ou encore des pièces de théâtre. Lyrics, c'est le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U et c'est avec Patricia et Marc. Alors aujourd'hui, c'est la troisième et la dernière partie consacrée au conte de la Bécasse de Guy de Maupassant. Le mois dernier, nous vous avions lu Pierrot et le Testament. Et pour cette émission, nous allons vous conter la peur et la rempailleuse. D'une manière générale, on peut noter que Maupassant fait le lien entre des faits d'actualité et ses personnages. Cette juxtaposition se retrouve dans ses contes et ses nouvelles. Ainsi, l'écriture de la peur aurait été inspirée par l'épidémie de choléra de 1885. Patricia, je te laisse la parole.
On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur toute sa surface qu'une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel, qui semblait ensemencé d'étoiles, un gros serpent de fumée noire. Et, derrière nous, l'eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battu par l'hélice, moussée, semblait se tordre, remuer tant de clarté qu'on eût dit de la lumière de lune bouillonnant. Nous étions là, 6 ou 8, silencieux, admirant, l'œil tourné vers l'Afrique lointaine où nous allions. Le commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit soudain la conversation du dîner. « Oui, j'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté 6 heures avec ce rocher dans le ventre, battu par la mer. Heureusement que nous avons été recueillis vers le soir par un charbonnier anglais qui nous aperçut. Alors, un grand homme à figure brûlée, à l'aspect grave, un de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longs pays inconnus au milieu de dangers incessants et dont l'œil tranquille semble garder, dans sa profondeur, quelque chose des paysages étranges qu'il a vus. Un de ces hommes qu'on devine trempés dans le courage parla pour la première fois. « Vous dites, commandant, que vous avez eu peur ? Je n'en crois rien. Vous vous trompez sur le mot et sur la sensation que vous avez éprouvée. Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant. Il est ému, agité, anxieux. Mais la peur, c'est autre chose. » Le commandant reprit en riant. « Fichtre, je vous réponds bien que j'ai eu peur, moi. » Alors l'homme, au teint bronzé, prononça d'une voix lente. Permettez-moi de m'expliquer. La peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu, quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit au revenant et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Moi, j'ai deviné la peur en plein jour, il y a 10 ans environ. Je l'ai ressenti, l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Et pourtant, j'ai traversé bien des hasards, bien des aventures qui semblaient mortelles. Je me suis battu souvent. J'ai été laissé pour mort par des voleurs. J'ai été condamné, comme insurgé, à être pendu en Amérique et jeté à la mer du pont d'un bâtiment sur les côtes de Chine. Chaque fois, je me suis cru perdu. J'en ai pris immédiatement mon parti, sans attendrissement et même sans regret. Mais la peur, ce n'est pas cela. Je l'ai pressentie en Afrique, et pourtant, à l'effigie du Nord, le soleil la dissipe comme un brouillard. Remarquez bien ceci, messieurs. Chez les Orientaux, la vie ne compte pour rien. On est résigné tout de suite. Les nuits sont claires et vides des inquiétudes sombres qui hantent les cerveaux dans les pays froids. En Orient, on peut connaître la panique, on ignore la peur. Eh bien, voici ce qui m'est arrivé sur cette terre d'Afrique. Je traversais les grandes dunes au sud de Ouargla. C'est là un des plus étranges pays du monde. Vous connaissez le sable uni, le sable droit des interminables plages de l'océan ? Eh bien, figurez-vous l'océan lui-même devenu sable au milieu d'un ouragan. Imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme des flots déchaînés, mais plus grandes encore et striées comme de la moire. Sur cette mer furieuse, muette et sans mouvement, le dévorant soleil du sud verse sa flamme implacable et directe. Il faut gravir ces lames de cendre d'or, redescendre, gravir encore, gravir sans cesse, sans repos et sans ombre. Les chevaux râlent, enfoncent jusqu'aux genoux et glissent en dévalant l'autre versant des surprenantes collines. Nous étions deux amis suivis de 8 spahis et de 4 chameaux avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus, accablés de chaleur, de fatigue et desséchés de soif comme ce désert ardent. Soudain, un de nos hommes poussa une sorte de cri. Tous s'arrêtèrent et nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable phénomène connu des voyageurs en ces contrées perdues. Quelque part près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait, le mystérieux tambour des dunes. Il battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt affaibli, arrêtant, puis reprenant son roulement fantastique. Les Arabes épouvantés se regardaient, et l'un dit en sa langue « La mort est sur nous !» Et voilà que tout à coup, mon compagnon, mon ami, presque mon frère, tomba de cheval, la tête en avant, foudroyée par une insolation. Et pendant 2 heures, pendant que j'essayais en vain de le sauver, toujours ce tambour insaisissable m'emplissait l'oreille de son bruit monotone, intermittent et incompréhensible. Et je sentais se glisser dans mes os la peur, la vraie peur, la hideuse peur, en face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre 4 monts de sable, tandis que l'écho inconnu nous jetait, à 200 lieues de tout village français, le battement rapide du tambour. Ce jour-là, je compris ce que c'était que d'avoir peur. Je l'ai su mieux encore une autre fois. Le commandant interrompit le compteur. « Pardon, monsieur, mais ce tambour, qu'était-ce ? » Le voyageur répondit. « Je n'en sais rien. Personne ne sait. » Les officiers, surpris souvent par ce bruit singulier, l'attribuent généralement à l'écho grossi, multiplié, démesurément enflé par les vallonnements des dunes, d'une grêle de grains de sable emportés dans le vent et heurtant une touffe d'herbe sèche. Car on a toujours remarqué que le phénomène se produit dans le voisinage de petites plantes brûlées par le soleil et dures comme du parchemin. Ce tambour ne serait donc qu'une sorte de mirage du son. Voilà tout. Mais je n'appris cela que plus tard. J'arrive à ma seconde émotion. C'était l'hiver dernier, dans une forêt du nord-est de la France. La nuit vint 2 heures plus tôt, tant le ciel était sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté, par un tout petit chemin, sous une voûte de sapins dont le vent déchaîné tirait des hurlements. Entre les cimes, je voyais courir des nuages en déroute, des nuages éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans le même sens avec un gémissement de souffrance. Et le froid m'envahissait, malgré mon pas rapide et mon lourd vêtement. Nous devions souper et coucher chez un garde forestier, dont la maison n'était plus éloignée de nous. J'allais là pour chasser. Mon guide, parfois, levait les yeux et murmurait « Triste temps !» Puis il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le père avait tué un braconnier 2 ans auparavant, et, depuis ce temps, il semblait sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses 2 fils, mariés, vivaient avec lui. Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la branchure des arbres entrechoqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante. Enfin, j'aperçus une lumière, et bientôt mon compagnon heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nous répondirent. Puis une voix d'homme, une voix étranglée, demanda « Qui va là ?» Mon guide se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inoubliable tableau. Un vieil homme à cheveux blancs, à l'œil fou, le fusil chargé dans la main, nous attendait debout au milieu de la cuisine, tandis que de grands gaillards, armés de haches, gardaient la porte. Je distinguai dans les coins sombres 2 femmes à genoux, le visage caché contre le mur. On s'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna de préparer ma chambre. Puis, comme les femmes ne bougeaient point, il me dit brusquement « Voyez-vous, monsieur, j'ai tué un homme, voilà 2 ans, cette nuit. L'autre année, il est revenu m'appeler. Je l'attends encore ce soir. » Puis il ajouta d'un ton qui me fit rire. « Aussi, nous ne sommes pas tranquilles. » Je le rassurai comme je pus, heureux d'être venu justement ce soir-là et d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. Je racontai des histoires et parvins à calmer à peu près tout le monde. Près du foyer, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemblent à des gens qu'on connaît, dormait le nez dans ses pattes. Au dehors, la tempête acharnée battait la petite maison et, par un étroit carreau, une sorte de Judas placé près de la porte, je voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent à la lueur de grands éclairs. Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens. Et chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. Las d'assister à ces craintes imbéciles, j'allais demander à me coucher, quand le vieux garde, tout à coup, fit un bond de sa chaise, saisit de nouveau son fusil en bégayant d'une voix égarée. « Le voilà, je l'entends !» Les 2 femmes retombèrent à genoux dans leur coin en se cachant le visage. Et les fils reprirent leurs haches. J'allais tenter encore de les apaiser quand le chien endormi s'éveilla brusquement et, levant sa tête, tendant le cou, regardant vers le feu de son œil presque éteint, il poussa un de ces lugubres hurlements qui font tressaillir les voyageurs le soir dans la campagne. Et il se remit à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde, livide, cria. « Il le sent, il était là quand je l'ai tué !» Et les 2 femmes, égarées, se mirent toutes les 2 à hurler avec le chien. Malgré moi, un grand frisson me courut entre les épaules. Cette vision de l'animal dans ce lieu, à cette heure, au milieu de ces gens éperdus, était effrayant à voir. Alors, pendant 1 heure, le chien hurla sans bouger. Il hurla comme dans l'angoisse d'un rêve, et la peur, l'épouvantable peur, entrait en moi. La peur de quoi? Le sais-je? C'était la peur, voilà tout. Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux, l'oreille tendue, le cœur battant, bouleversés au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce, en sentant les murs et gémissant toujours. Cette bête nous rendait fous. Alors, le paysan qui m'avait amené se jeta sur elle dans une sorte de paroxysme de terreur furieuse et, ouvrant une porte donnant sur une petite cour, jeta l'animal dehors. Il se tut aussitôt. Et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, tous ensemble, nous eûmes une sorte de sursaut. Un être glissait contre le mur du dehors vers la forêt. Puis il passa contre la porte, qu'il sembla tâter, d'une main hésitante. Puis on n'entendit plus rien pendant 2 minutes, qui firent de nous des insensés. Puis il revint, frôlant toujours la muraille, et il gratta légèrement comme ferait un enfant avec son ongle. Puis soudain, une tête apparut contre la vitre du Judas, une tête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des fauves. Et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. Alors un bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et aussitôt les fils se précipitèrent, bouchèrent le Judas en dressant la grande table qu'ils assujettirent avec le buffet. Et je vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais point, j'eus une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps que je me sentis défaillir, prêt à mourir de peur. Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible. On osa débarricader la sortie qu'en apercevant, par la fente d'un auvent, un mince rayon de jour. Au pied du mur, contre la porte, le vieux chien gisait, la gueule brisée d'une balle. Il était sorti de la cour en creusant un trou sous une palissade. L'homme au visage brun se tut, puis il ajouta : Cette nuit-là, pourtant, je ne courus aucun danger. Mais j'aimerais mieux recommencer toutes les heures où j'ai affronté les plus terribles périls que la seule minute du coup de fusil sur la tête barbue du Judas.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.1. Which in turn made my day. Well, if someone spoke, I listened. All of a sudden had less and less to say. Oh, how could this be? With all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told? Feel like somebody, like somebody else. And although he was imitated often, still felt like I was being myself. Now, is it a shame that someone else's song totally, completely dependent on? Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? And I wonder if I'll live to grow old now. Getting high 'cause I feel so low. Maybe it's a little selfish. All I have is the memories. Yet I never stop to wonder, was it possible you were hurting worse than me? Still my hunger turns greed. Save my soul.
Voilà, vous êtes bien dans l'émission Lyrics sur Radio U. Nous allons passer maintenant au second conte, La Rempailleuse. Conte dans lequel on retrouve des thèmes fréquemment abordés par Maupassant, l'amour et la cupidité. Marc, c'est à toi.
C'était la fin du dîner d'ouverture de chasse chez le marquis de Bertrand. 11 chasseurs, 8 jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs. On vint à parler d'amour, et une grande discussion s'éleva, l'éternelle discussion pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n'ayant jamais eu qu'un amour sérieux. On cita aussi d'autres exemples de gens ayant aimé souvent, avec violence. Les hommes, en général, prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont l'opinion s'appuyait sur la poésie bien plus que sur l'observation, affirmaient que l'amour, l'amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu'une seule fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre, cet amour, et qu'un cœur touché par lui demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n'y pouvait germer de nouveau. Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance. Je vous dis, moi, qu'on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tués par amour, comme preuve de l'impossibilité d'une seconde passion. Je vous répondrai que, s'ils n'avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris, et ils auraient recommencé, et toujours, jusqu'à leur mort naturelle. Il en est des amoureux comme des ivrognes. Qui a bu, boira, qui a aimé, aimera. C'est une affaire de tempérament, cela. On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré au champ, et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. Comme l'a dit le marquis, c'est une affaire de tempérament. Quant à moi, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura 55 ans sans un jour de répit et qui ne se termina que par la mort. La marquise battit des mains. Est-ce beau cela? Et quel rêve d'être aimé ainsi! Quel bonheur de vivre 55 ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante! Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu'on adora de la sorte! Le médecin sourit. En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point, que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez, c'est Monsieur Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l'avez connue aussi, c'est la vieille rempailleuse de chaises qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. L'enthousiasme des femmes était tombé, et leur visage dégoûté disait « Pouah !» Comme si l'amour nous dût frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l'intérêt des gens comme il faut. Le médecin reprit. J'ai été appelé, il y a 3 mois, auprès de cette vieille femme à son lit de mort. Elle était arrivée, la veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses 2 grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires, et, pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis planté en terre. Toute petite, elle errait, haillonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés. On dételait la voiture, le cheval broutait, le chien dormait, le museau sur ses pattes. Et la petite se roulait dans l'herbe pendant que le père et la mère rafistolaient, à l'ombre des ormes du chemin, tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons, en poussant le cri bien connu « Rempailleur de chaises !», on se mettait à tortiller la paille face à face ou côte à côte. Quand l'enfant allait trop loin, ou tentait d'entrer en relation avec quelques galopins du village, la voix colère du père la rappelait « Veux-tu bien revenir ici, crapule ?» C'étaient les seuls mots de tendresse qu'elle entendait. Quand elle devint plus grande, on l'envoya faire la récolte des fonds de siège avariés. Alors, elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins. Mais c'étaient, cette fois, les parents de ses nouveaux amis qui rappelaient brutalement leur enfant. « Veux-tu bien venir ici, polisson ? Que je te vois causer avec les va-nu-pieds. » Souvent, les petits gars lui jetaient des pierres. Des dames, lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. Un jour, elle avait alors 11 ans, comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet qui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé 2 liards. Ces larmes d'un petit bourgeois, d'un de ces petits qu'elle s'imaginait dans sa frêle caboche de déshérité, être toujours content et joyeux, la bouleversèrent. Elle s'approcha, et quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses économies, 7 sous, qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras, à plein cœur, puis elle se sauva. Que se passa-t-il dans cette misérable tête ? S'était-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre ? Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l'espérance de le revoir, elle vola ses parents, grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur les provisions qu'elle allait acheter. Quand elle revint, elle avait 2 francs dans sa poche, mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien bien propre derrière les carreaux de la boutique paternelle entre un bocal rouge et un ténia. Elle ne l'en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l'eau colorée, cette apothéose des cristaux luisants. Elle garda en elle son souvenir ineffaçable et, quand elle le rencontra, l'an suivant, derrière l'école, jouant aux billes avec ses camarades, elle se jeta sur lui, le saisit dans ses bras et le baisa avec tant de violence qu'il se mit à hurler de peur. Alors, pour l'apaiser, elle lui donna son argent, 3 francs 20, un vrai trésor, qu'il regardait avec des yeux agrandis. Il le prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut. Pendant 4 ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves qu'il empochait avec conscience en échange de baisers consentis. Ce fut une fois 30 sous, une fois 2 francs, une fois 12 sous. Elle en pleura de peine et d'humiliation, mais l'année avait été si mauvaise. Et la dernière fois, 5 francs, une grosse pièce ronde qui le fit rire d'un rire content. Elle ne pensait plus qu'à lui. Et il attendait son retour avec une certaine impatience, courait au-devant d'elle en la voyant, ce qui faisait bondir le cœur de la fillette. Puis il disparut. On l'avait mis au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors, elle usa d'une diplomatie infinie pour changer l'itinéraire de ses parents et les faire passer par ici au moment des vacances. Elle y réussit, mais après 1 an de ruse. Elle était donc restée 2 ans sans le revoir. Et elle le reconnut à peine, tant il était changé, grandi, embelli, imposant dans sa tunique à boutons d'or. Il feignit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant 2 jours, et depuis lors, elle souffrit sans fin. Tous les ans, elle revenait, passait devant lui, sans oser le saluer et sans qu'il daignât même tourner les yeux vers elle. Elle l'aimait éperdument. Elle me dit « C'est le seul homme que j'ai vu sur la terre, monsieur le médecin. Je ne sais pas si les autres existaient seulement. » Ses parents moururent. Elle continua leur métier, mais elle prit 2 chiens au lieu d'un, 2 terribles chiens qu'on n'aurait pas osé braver. Un jour, en revenant dans ce village où son cœur était aimé, elle aperçut une jeune femme qui sortait de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était sa femme. Il était marié. Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la mairie. Un ivrogne attardé la repêcha et la portait à la pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambre pour la soigner et, sans paraître la reconnaître, la déshabilla, la frictionna, puis il lui dit d'une voix dure « Mais vous êtes folle ! Il ne faut pas être bête comme ça !» Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé. Elle était heureuse pour longtemps. Il ne voulut rien recevoir en rémunération de ses soins, bien qu'elle insistât vivement pour le payer. Et toute sa vie s'écoula ainsi. Elle rempaillait en songeant à Chouquet. Tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions, de menus médicaments. De la sorte, elle le voyait de près, et lui parlait, et lui donnait encore de l'argent. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps. Après m'avoir raconté toute cette triste histoire, elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes les économies de son existence, car elle n'avait travaillé que pour lui, disait-elle, jeûnant même pour mettre de côté et être sûre qu'il penserait à elle au moins une fois quand elle serait morte. Elle me donna donc 2 327 francs. Je laissai à monsieur le curé les 27 francs pour l'enterrement, et j'emportai le reste quand elle eut rendu le dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les Chouquet. Ils achevaient de déjeuner, en face l'un de l'autre, gros et rouge, fleurant les produits pharmaceutiques, importants et satisfaits. On me fit asseoir, on m'offrit un kirsch que j'acceptai, et je commençai mon discours d'une voix émue, persuadé qu'ils allaient pleurer. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rempailleuse, de cette rouleuse, Chouquet bondit d'indignation, comme si elle avait volé sa réputation, l'estime des honnêtes gens, son humeur intime, quelque chose de délicat qui lui était plus cher que la vie. Sa femme, aussi exaspérée que lui, répétait « cette gueuse, cette gueuse, cette gueuse », sans pouvoir trouver autre chose. Il s'était levé. Il marchait à grands pas derrière la table, le bonnet grec chaviré sur une oreille. Il balbutiait. « Comprend-on ça, docteur ? Voilà de ces choses horribles pour un homme. Que faire ? Oh, si je l'avais su de son vivant, je l'aurais fait arrêter par la gendarmerie et flanquer en prison. Et elle n'en serait pas sortie, je vous en réponds. » Je demeurais stupéfait du résultat de ma démarche pieuse. Je ne savais que dire ni que faire, mais j'avais à compléter ma mission. Je repris. Elle m'a chargé de vous remettre ses économies, qui montent à 2 300 francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable, le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres. » Il me regardait, l'homme et la femme, perclus de saisissement. Je tirai l'argent de ma poche, du misérable argent, de tout pays et de toutes les marques, de l'or, de sous-mêlé. Puis je demandai, « Que décidez-vous ? » Madame Chouquet parla la première. « Mais, puisque c'était sa dernière volonté à cette femme, il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. » Le mari, vaguement confus, reprit. « Nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. » Je dis d'un air sec, « Comme vous voudrez. » Il reprit. « Donnez toujours, puisqu'elle vous en a chargé. Nous trouverons bien moyen de l'employer à quelque bonne œuvre. » Je remis l'argent, je saluai et je partis. Le lendemain, Chouquet vint me trouver et brusquement. « Mais elle a laissé sa voiture, cette femme. Qu'est-ce que vous en faites de cette voiture ?»« Rien. Prenez-la si vous voulez. » »« Parfait. Cela me va. J'en ferai une cabane pour mon potager. » Il s'en allait. Je le rappelais. « Elle a laissé aussi son vieux cheval et ses deux chiens. Les voulez-vous ?» Il s'arrêta surpris. « Ah non, par exemple, que voulez-vous que j'en fasse ? Disposez-en comme vous voudrez. » Et il riait. Puis, il me tendit sa main que je serrai. « Que voulez-vous ? Il ne faut pas, dans un pays, que le médecin et le pharmacien soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi. Le curé, qui a une grande cour, a pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet, et il a acheté 5 obligations de chemin de fer avec l'argent. Voilà le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie. » Le médecin se tut. Alors la marquise, qui avait des larmes dans les yeux, soupira. Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir aimer.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1. Thank you.
l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence.
Voilà, Lyrics, c'est terminé pour ce soir. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain. Et d'ici là, bonne lecture à toutes et à tous.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.